Sermon sur la montagne, alors pas tout le sermon sur la montagne, parce que nous on a fait une série de 12 prédications sur le sujet, donc c'est juste un petit bout. C'est la fin du chapitre 6 de Matthieu, donc des versets 19 à 34. Télécommandez là. Et donc on est au milieu, vers, pas la fin, mais enfin voilà, la deuxième partie du discours de Jésus devant cette foule. Et donc, ça ne marche pas. Ah, c'est parce que ce n'est pas allumé. Ça devrait beaucoup mieux marcher, voilà. Dans le début du passage, dans le début de ce chapitre, Jésus nous parle de la persévérance dans la piété, la prière et le jeûne. Et ici, on va parler de ce que ça produit. Une confiance totale dans notre Père céleste. Si on croit fermement que Jésus est venu sur terre pour réconcilier le monde d'en haut et le monde d'ici-bas, et que cette vie céleste, elle est déjà disponible pour nous, ici et maintenant, eh bien, ça change notre perspective sur à peu près tout. Et ça, ça inclut aussi ce qu'on possède. En fait, dans ce passage, et on va le détailler ici, Jésus nous dit que le plus grand obstacle nous empêchant d'expérimenter, la présence céleste de Dieu dans nos vies, ce sont nos trucs, nos affaires. Évidemment, ça marche pas. Oui, voilà, je suis à l'envers. Voilà, nos affaires. Nos possessions, plus exactement, nos inquiétudes pour nos affaires amassées, stockées. Et on stocke. On stocke de l'argent, on stocke des objets pour répondre à un besoin. Nous sommes inquiets. Alors je pense que ça vous est déjà arrivé de vous promener dans un vide-grenier. Personnellement, je suis toujours incroyablement surpris de la capacité que les gens ont à stocker des trucs. Des montagnes de trucs, d'ailleurs pas toujours utiles, vraisemblablement pas utiles puisqu'ils les vendent. Et je m'exclus pas, hein, chez moi j'ai une pièce qui est réservée, enfin deux même, à stocker des trucs, des choses à trier qui sont au moins inutiles, au pire achetées. Et c'est vrai qu'on possède beaucoup de choses, hein, surtout ici, on vient de passer les fêtes de Noël. La société de consommation en Occident a tendance à nous pousser à acheter toujours plus de choses. Et on a besoin de choses pour vivre, hein, c'est naturel de posséder. Parce que les choses que je possède, elles peuvent me donner un sentiment de sécurité. Elles peuvent me donner un sentiment de liberté. Les choses ou l'argent peuvent gommer mes inquiétudes. Et en fait, on pense que c'est vrai. Mais Jésus nous dit que ce n'est pas tellement le cas. Il faut le temps que le micro s'allume, je suis désolé. C'est bon, ça marche?
Je ne sais pas.
Ça n'a pas l'air. En fait, Cathy va nous lire les textes.
C'est bon?
Oui.
Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille gâtent, et où les voleurs percent et dérobent.
Alors dans ce cas, la solution, ça serait quoi si on dit ne n'amassez pas de trésors parce qu'il y a des voleurs? Eh bien, peut-être ça serait qu'on mette tout dans un coffre-fort, qu'on installe des alarmes, des caméras, qu'on reçoit une notification sur le portable lorsque quelqu'un passe un peu trop près de la maison, pourquoi pas. J'ai un collègue de boulot qui fonctionne comme ça. Il est en stress permanent pour sa maison, sa voiture, ses enfants qui regardent rentrer sur ses caméras. Et si on raisonne comme ça, en fait, notre attention va se porter sur la sécurité de nos possessions. Et on va doucement commencer à s'inquiéter, avoir peur de perdre nos affaires, peur des événements de demain, peur d'avoir peur finalement. Jésus nous dit qu'une belle vie épanouie vient lorsque notre attention est tourné ailleurs que sur nous et nos possessions.
Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni la teigne ni la rouille ne gâtent, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent.
Alors, des trésors dans le ciel, comme des possessions, mais du ciel alors. Mais c'est quoi ces trucs ? C'est le genre de choses qui est tellement sécurisée qu'elles ne peuvent jamais être menacées. Et c'est différent des choses qu'on trouve sur Terre. Ces choses sont la matière même dont est fait le royaume céleste de Dieu. Et plus nous les collectons, plus nous vivons l'expérience du royaume de Dieu sur Terre. Sympa, hein, mais c'est un peu abstrait, non ? De quoi parle Jésus ici précisément ? Alors, on a dans un autre passage de la Bible, dans 1 Timothée 6, au verset 17 à 19, on a cette réponse.
Recommande à ceux qui possèdent des richesses en ce monde de se garder de toute arrogance et de ne pas fonder leur espoir sur la richesse, car elle est instable. Qu'ils placent leur espérance en Dieu, qui nous dispense généreusement toutes ces richesses pour que nous en jouissions.
Continue.
Recommande-leur de faire le bien, d'être riche en œuvres bonnes, d'être généreux et de partager avec les autres. Ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie.
Alors les possessions célestes, donc si je suis ce passage, c'est faire le bien, être riche en bonnes œuvres, être généreux avec vos frères et sœurs et dans nos dons, partager avec les autres. Et d'après ce passage, c'est un placement, un investissement. Si on relit le verset 19, ils s'assureront ainsi pour l'avenir un beau capital placé en lieu sûr afin d'obtenir la vraie vie. Parce que comme le dit Jésus au verset 21 de ce même passage, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Donc, si j'ai bien compris, je devrais concentrer mes espoirs sur ce qui compte vraiment. Jésus, il prend une image bien vivante, d'ailleurs, pour décrire cette focalisation. Ce qu'on peut lire en verset 22.
La lampe du corps, c'est l'œil. Si donc ton œil est bon, ton corps tout entier sera plein de lumière. Mais si ton œil est méchant, ton corps tout entier sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre, combien seront grandes les ténèbres ?
Alors d'abord, ça m'a fait penser à ça. Mais ce n'est pas vraiment la bonne explication. Hein. C'est l'extrait d'Astérix, les 12 travaux d'Astérix. Le bon œil ici, c'est l'œil qui a le bon discernement, qui voit les choses qui sont prioritaires. Petite illustration qui a été faite par un jeune de notre église, que je trouve tout à fait pertinente. Si nous fixons notre attention sur Jésus et sur ce qui est juste, à ses yeux, pas aux nôtres, nous serons rayonnants de sa gloire, lumière pour le monde. Je répète, c'est important. Si nous fixons notre attention sur Jésus et sur ce qui est juste à ses yeux, nous serons rayonnants de sa gloire et lumière pour le monde. Mais si nous fixons notre œil sur nos possessions et sur nos richesses, nous devenons ternes aux yeux de Dieu. Alors qu'est-ce que je devrais faire ? Est-ce que je devrais donner toutes mes affaires ? Peut-être, parce que Jésus, il a dit ça un jour à un homme riche. On a ça dans Matthieu, un peu plus loin, au chapitre 19, verset 21.
Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu as, et le donne aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Mais quand ce jeune homme eut entendu cette parole, il s'en alla tout triste, parce qu'il avait de grands biens.
Alors est-ce que c'est à appliquer à la lettre pour tout le monde ? En fait, Jésus, qui peut lire, évidemment, dans les cœurs, il demande à cet homme riche de faire ça pour une question de priorité. Où est notre priorité ? où est notre priorité ? Pour cet homme riche, sa priorité, c'était son argent, ses richesses. Et Jésus, il savait qu'il n'était pas prêt à tout perdre pour le suivre. Et en fait, Jésus ne nous demande pas d'être pauvres, mais que nos priorités soient centrées sur lui. D'être prêt à tout perdre, parce que c'est en lui que nous avons notre espérance. Et parce qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Verset 24.
Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et l'argent.
La richesse, l'argent, est comme un tyran qui exige notre loyauté. Je pense que je possède mes affaires, mais dans peu de temps, ce sont mes affaires qui me posséderont. Et le danger est réel. Et Jésus est plutôt direct à ce sujet. Nos possessions, si nous les adorons, si elles deviennent notre priorité, elles peuvent nous empêcher de vivre notre communion avec Dieu tout simplement. Je répète, nos possessions, si nous les adorons, et si elles deviennent notre priorité, elles vont nous empêcher de vivre notre communion avec Dieu. Ok, mais alors soyons réalistes quand même, parce qu'on a besoin de choses pour vivre, hein ? On est d'accord. J'ai besoin de nourriture, j'ai besoin de vêtements. Eh bien, Jésus, il a encore un enseignement par rapport à ses richesses. Et ça rassemble un peu toutes les idées qu'on vient déjà de voir. Dans la fin du chapitre, il y a deux idées en une qui se détachent du verset 25 à 34. La première, elle est dans le verset 27.
Et qui d'entre vous, par le souci qu'il se donne, peut ajouter une coudée à sa taille, une heure à sa vie ?
Oui, une heure à sa vie, parce que dans certains passages, on parle d'une heure à sa vie. Ce n'est pas écrit comme ça dans le texte. On pourrait s'arrêter à penser que ce verset, il nous dit juste de ne pas nous inquiéter. Et c'est vrai, on va le voir après. Mais ce verset, il nous dit aussi que nos inquiétudes sont un bon indicateur que mon attention, elle est en train de se détourner de Jésus. Vous savez, des fois, on a une échéance au travail, un truc stressant, et on a fait tout ce qu'il fallait. Il n'y a pas de problème. Et pourtant, on s'inquiète quand même. Très concrètement, il m'arrive d'avoir des réunions de présentation de projet avec le grand chef de la boîte. Et tout est prêt, hein, c'est OK. Mon PowerPoint, il est parfait, carré, nickel, rangé, ciré, rien qui dépasse. Et pourtant, je stresse. Je dors mal. J'ai peur de je sais pas quoi, de ne pas tout maîtriser peut-être, d'avoir oublié un truc. Mais qu'est-ce qu'il y a en fait au fond de mon cœur quand je m'inquiète comme ça ? Est-ce que mon image auprès de mes collègues n'est pas un peu en danger, en fait ? Est-ce que je suis pas en train de la chérir un peu plus que je devrais ? Est-ce que je suis pas en train de servir mon propre orgueil ? Est-ce que je suis pas en train de servir mon propre orgueil ? On parle de richesse et de possession dans ce passage parce que c'était la préoccupation principale des gens à l'époque. Forcément, ils n'avaient pas de comité de direction avec leur chef de projet, avec leur responsable direct pour faire de la gestion de projet. Ils avaient besoin de manger et de s'habiller et de trouver un endroit pour habiter. Mais en fait, c'est pareil pour tout ce qui capte notre attention et qui nous détourne de Dieu. Le Seigneur, il me rappelle dans ce verset que c'est lui qui contrôle toute chose et que mon inquiétude, elle me révèle que je perds confiance en lui. Le Seigneur me rappelle que c'est lui qui contrôle toute chose. Et quand je suis inquiet, c'est que je perds confiance en Dieu. Et c'est une bonne alarme. Le deuxième point qu'on a dans ces derniers versets qu'on va lire dans quelques secondes, il nous invite à réfléchir combien il a rempli la création avec abondance. Chaque créature, elle a exactement ce dont elle a besoin. Jésus nous dit que si nous donnons la priorité à notre amour pour Dieu et pour les autres, on constatera que nos besoins seront satisfaits. Et je vous propose qu'on prenne le temps de lire ensemble ces versets. Je t'en prie.
C'est pourquoi je vous dis, ne soyez pas en souci pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement ? Regardez les oiseaux, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent pas de récolte dans des greniers. Mais votre Père qui est au ciel les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que les oiseaux ? Qui d'entre vous parvient à prolonger un peu la durée de sa vie par le souci qu'il se fait ? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet des vêtements ? Observez comment poussent les fleurs des champs. Elles ne travaillent pas, elles ne se font pas de vêtements. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a pas eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. Dieu habille ainsi l'herbe des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu. Alors ne vous habillera-t-il pas à bien plus forte raison vous-même ? Comme votre confiance en lui est faible. Ne vous inquiétez donc pas en disant « Qu'allons-nous manger ? Qu'allons-nous boire ? Qu'allons-nous mettre pour nous habiller ?» Ce sont les païens qui recherchent sans arrêt tout cela. Mais votre Père qui est au ciel sait que vous en avez besoin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande. Et Dieu vous accordera aussi tout le reste.
Intéressant, c'était un peu le thème de la louange. C'est toujours marrant à quel point on peut être connecté sans le savoir. Alors, il y a de magnifiques images dans ce passage, et il n'est pas forcément nécessaire de toutes les commenter, parce que sinon on est encore là demain. Mais je peux illustrer par une expérience personnelle. J'ai été à mon compte pendant plus de 10 ans avec un frère, un chrétien, qui en était associé. Et donc on avait 2 sociétés avec, qui étaient en plein démarrage avec des salariés. Et pendant plus de 2 ans, il a été impossible que l'on puisse se payer. Et au début, pour moi, c'était plutôt très très dur. Forcément, j'étais inquiet en tant que chef de famille. La charge était quand même très forte. Ce n'était pas évident à gérer. Et je peux vous garantir que cette pression-là, eh ben, je ne l'ai pas bien gérée. Alors, je ne rentrerai pas dans les détails, mais il y a plein de moments où, à cause de cette inquiétude, je n'ai vraiment pas été bon. Alors, il n'y a pas eu de révélation comme ça un matin. Mais au bout d'un moment d'épreuve, Dieu a mis dans mon cœur qu'il fallait que je lâche prise. Alors la boîte s'est pas mise à marcher de fou du jour au lendemain, on n'est pas devenu riche, promis, j'ai pas de Ferrari planqué dans mon garage. Mais en fait, on a traversé cette période et on n'a pas vendu nos maisons. On a été au bénéfice de la bienveillance d'un banquier qui, aujourd'hui, j'en suis sûr, était envoyé de Dieu. Alors on a pu redresser la barre. J'ai même pu vendre une des 2 activités, solder tous les prêts, et je vais vous dire même, il restait suffisamment d'argent pour qu'on puisse se payer une cuisine. Et la 2e activité, ben aujourd'hui, elle est toujours en place, c'est mon associé qui la gère, et elle est pérenne. Aujourd'hui, je peux dire que je n'ai aucune idée de comment on a fait. C'était pas facile. Mais Dieu, il a pris soin de nous. Et c'est le thème central de ce sermon sur la montagne, finalement. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a au verset 33 de ce passage. Je ne l'ai peut-être pas mis. Si, voilà, c'est la fin. Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu. Il faut bien comprendre que c'est une question de priorité. Je répète, nous devons chercher en priorité à amasser des richesses dans le ciel sans nous soucier des richesses du monde. Et pourtant, il y a un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Encore une fois, et comme beaucoup de recommandations de la part de Jésus, il ne s'agit pas de faire pour obtenir, mais bien d'être. Si vous rentrez ce dimanche à la maison, si on rentre ce dimanche à la maison avec dans l'idée qu'il faut faire de bonnes œuvres pour gagner quelque chose au ciel, en fait, vous n'avez pas compris le message de Jésus. Jésus y parle ici de notre attitude de cœur. C'est pas ce que je fais pour les autres qui m'attire les faveurs de Dieu, sinon la gloire elle est sur moi. Mais c'est chercher à intensifier ma relation avec Jésus qui produit en moi des actes qui me permettent d'amasser des trésors dans le ciel. Je vais le dire dans un autre sens. Quand je cherche et quand j'intensifie ma relation avec Jésus, je fais de bonnes œuvres parce que j'ai intensifié ma relation avec Jésus. Et du coup, j'amasse des trésors dans le ciel. Mais l'intention, elle est de intensifier ma relation avec Jésus. Et sans s'inquiéter pour soi-même, en étant prêt à se soumettre à sa volonté et même à tout perdre. Parce que notre Père, qui est tout puissant et qui nous aime, il prend soin de ses enfants. Et ce sont les dernières lignes, d'ailleurs, de cette partie.
Ne soyez donc pas en souci pour le lendemain, car le lendemain sera en souci de lui-même. À chaque jour suffit sa peine.
À chaque jour suffit sa peine. En conclusion, vous allez voir, c'est un leitmotiv. Ne nous inquiétons pas pour nos possessions, ne nous inquiétons pas pour notre travail, ne nous inquiétons pas pour la situation politique, ne nous inquiétons pas pour demain, ne nous inquiétons pas pour vous mettez ce que vous voulez. Donc j'espère que vous avez compris. Ne nous inquiétons pas. Mais cherchons la communion avec notre Seigneur en priorité. Car lui sait probablement mieux, sûrement mieux que moi, ce dont j'ai besoin. Je vous remercie.